des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute de vélo avec le ministre des Transports, François Bonnardel, qui est un vrai cycliste. En juin, il nous avait révélé en primeur, alors que nous roulions avec lui, que le ministère allait installer des bandes rugueuses sur le bord des routes afin de protéger les cyclistes qui roulent sur l'accotement. Or, le projet pilote est annoncé aujourd'hui. Évidemment, j'ai brièvement abordé d'autres questions, dont la brûlante question du projet de tramway à Québec qui a été durement critiqué récemment par le BAP. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Bonjour Thomas Mulcair.
Salut l'autre barbu.
Notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute. Le beau risque de Noël, moi c'est comme ça que j'ai appelé ça. Penses-tu que c'est un beau risque ce que François Legault a annoncé hier?
C'est un risque. C'est une décision politique, comme toutes les décisions autour de la pandémie de la part du gouvernement de la CAQ. Parfois, ils ont raison. Parfois, ils manquent leur coup. Par exemple, je pense qu'ils ont eu tort de laisser Halloween aller, parce que même si eux, ils mettaient des conditions, les gens n'avaient entendu qu'une chose, Halloween aura lieu. Alors, c'est un peu la même chose pour Noël. Quand on a regardé les chiffres après Halloween, du 10e au 15e jour à peu près, la période d'incubation, pouf, les chiffres ont augmenté. La santé publique n'est pas unanime pour savoir si on a assez de chiffres pour ça, mais disons que la coïncidence est marquante. Donc, regardons Noël. On nous dit une semaine de tranquillité avant les 4 jours permis pour avoir jusqu'à 10 personnes, je veux bien, puis après, une semaine. Mais justement, la période d'incubation, c'est pas 7 jours. Donc, imaginez que vous êtes enseignante au primaire. Et les enfants ont vu toutes sortes de familles pendant 4 jours et amis. Là, ils ont eu 7 jours. On ne sait pas du tout qui va être porteur ou pas d'un virus. Ils retournent en classe parce que contrairement aux étudiants du secondaire qui ont une semaine de plus en éducation virtuelle, les enfants au primaire retournent le 4. Et moi, je pense que c'est là-dessus que M. Legault est en train de prendre un risque. Et je suis pas sûr que c'est un beau risque. Quand on sait qu'il y a de la lumière qui pointe sur l'horizon, écoutez, Antoine, on est à la veille d'avoir les vaccins. Ils sont en train d'être approuvés. C'est pas une question de plusieurs mois. C'est une question de peut-être un mois maximum avant que ça commence à être distribué. Alors, c'est un risque.
Tu dis un mois?
Convaincu.
Je pensais qu'on n'aurait pas de vaccin quand même avant la fin du printemps.
Les Américains disent qu'ils vont être en train de les livrer avant la fin du mois de décembre.
Ah oui, OK.
Et ça pose une autre question, petite parenthèse quand même.
Oui.
Parce que M. Trudeau n'est pas très transparent sur une chose très importante. Lui, il va toujours dire, ben oui, on a des contrats avec Pfizer, avec Moderna, et ainsi de suite, ce qui est une très bonne chose. Et ils ont bien fait. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on est dans le fil d'attente. Je m'explique. Est-ce que les Américains, par exemple, vont avoir pendant des semaines, voire des mois, des vaccins, tandis que le Canada va être en attente? Vous vous souvenez comme moi que la semaine dernière, les libéraux avaient tenté en commission parlementaire de dire à travers Pfizer, non, faut pas rendre public les contrats.
Oui.
Moi, je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Si on veut éviter les folies des gens qui sont sur les médias sociaux en train de dire que COVID-19, c'est un canular, c'est pas vrai, porte pas de masque, c'est du contrôle par l'État. Mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait.
Donc, pour revenir à notre risque, tu trouves pas que c'est un beau risque? C'est un risque trop grand.
Moi,
il aurait fallu annuler les deux fêtes, annuler et Noël et le jour de l'an?
Ça aurait été politiquement pas populaire.
Oui.
Comme le fait d'annuler Halloween aurait été politiquement pas populaire. Donc, c'est sûr que c'est un excellent compromis politique. mais je suis pas convaincu qu'on a le droit de faire des compromis avec la santé publique. Et c'est ça mon point.
Mm-hmm. Mais pour la santé mentale, donner un peu d'espoir, la permission d'aller voir ses parents, de faire un, de faire une réunion à 10, peut-être.
Mais justement, voir ses parents, et ça veut dire souvent 3, sinon 4 générations dans la même maison. Et ça aussi, ça pose son lot de risques.
Oui.
Comme beaucoup de Québécois, ma maman est dans un CHSLD depuis environ un an et demi.
Oui.
Elle a passé à travers la première vague et je touche du bois. Ils ont été épargnés par la deuxième vague jusqu'à maintenant. Mais effectivement, on n'a pas le droit, ils n'ont plus le droit de sortir de leur CHSLD. Donc, il y a des choses qui sont permises et je suis très famille. Antoine, je viens d'une famille de 10 enfants.
Ben oui.
Ma maman vient d'une famille de 9 enfants. Mon papa d'une famille de 9 enfants. Et à nous, tout le monde ensemble, on était une centaine de cousins germains.
Ah oui.
Les deux bords combinés. Donc, ça faisait du monde à la messe, littéralement.
Donc, tu pourras pas voir grand monde à Noël, là.
Mais maintenant que je suis papa et grand-papa,
ouais.
On a trois petits-enfants et on est 3 couples, donc ça fait 9. Donc, on rentre en dessous du 10.
Bon.
Reste à voir parce que tout le monde va prendre sa propre décision.
Oui, mais là, il va falloir que les Québécois soient plus disciplinés. Mais c'est toujours difficile à appliquer toutes ces règles-là dans la réalité.
Mais finalement, en dernière analyse, Antoine, il n'y aura pas un policier dans chaque première. Alors, qu'on se le dise, c'est une question de responsabilité individuelle, mais le signal vient d'en haut quand même.
C'est ça, exactement. Donc, parlons du français maintenant. Dans la chanson de présentation, on dit que ta barbe pique un peu, oncle Thomas. Est-ce que ta barbe a piqué en voyant le NPD complètement absent du débat linguistique qui a cours actuellement à Ottawa?
Bien, pire que ça, ils ont l'air d'avoir, sur la question de la proposition du Bloc pour veiller à ce que le français soit d'abord et avant tout la langue des immigrants et que ça fasse partie de l'analyse, j'étais plutôt surpris de l'explication du NPD. Je sais que Jack Layton et moi, parce que Jack et moi, on en a parlé souvent, Jack était absolument convaincu que la seule manière pour le NPD de percer au Québec, c'était de développer une réelle compréhension de ces enjeux-là et de les mettre en vigueur. Il y a un commentateur politique de l'Ouest canadien, un gars très respecté,
Norman Spector,
qui m'a demandé ce que j'en pensais. Ben alors, je vais dire à mon ami Antoine, de la même manière que je l'ai dit à la radio anglophone, je fais CJD, puis l'autre jour, la question m'est venue, ben je dis, c'est normal. Il faut le comprendre.
Rappelons la proposition précisément, là, c'est que les nouveaux citoyens issus de l'immigration auraient comme condition d'accès à la citoyenneté au Québec une maîtrise suffisante du français. Donc, on encouragerait une meilleure maîtrise du français. Ça donnerait peut-être un peu plus de points que l'anglais. Là. Les deux langues ne seraient pas sur le même pied pour l'obtention de la citoyenneté au Québec, ce qui semble être plein de bon sens.
Évident.
Si on veut aider le français au Québec.
Et normal. Mais justement, les libéraux ont une telle historique de dire que non, c'est... Il l'a encore dit l'autre jour, M. Trudeau, il dit non, pour le français au Québec et dans toutes les autres provinces. Mais non, je suis désolé.
Il y a
une seule province au Canada où le français est majoritaire. Il faut s'en occuper. Il faut privilégier, défendre et promouvoir le français. C'est une bataille de toutes les instances.
Oui, exactement. Donc, réponse à Norman Spector, c'est que toi, évidemment, chef du NPD, t'aurais appuyé cette initiative-là. Mais il y a eu d'autres projets de loi dans le passé. Vous l'aviez appuyé?
Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai appuyé, je l'explique de la même manière, dans une radio anglophone très mainstream, très écoutée à Montréal, mais je le dis avec simplicité. Et les gens, j'ai pas eu de pushback, j'ai pas eu de briques ni de batte de baseball. Les gens étaient capables de suivre.
Bien sûr. Ben, Alexandre Boulris dit que c'est une approche qui divise et exclut les nouveaux arrivants. Alexandre Boulris, qui est le seul député du NPD au Québec.
Oui, je ne comprends absolument pas comment est-ce que ça peut diviser les gens que de dire on a une langue en commun au Québec, c'est le français.
Ah oui, en tout cas. C'est décourageant. Hey, dis-moi, il y a les doutes de Mme Lambropoulos, la députée de Saint-Laurent, qui se demande. Moi, je pense qu'elle a le droit de douter, là, que le déclin, que le français est en déclin, même s'il y a plein d'études qui le disent, là. Mais il se fait rien. Elle a le droit de douter. Dans notre monde, on a le droit de douter. Mais il me semble que l'affirmation est la pire. C'est celle de Chelsea Craig, directrice du PLC au Québec, qui a soutenu sur Twitter en septembre que la loi 101 était oppressive et qu'elle aurait gâché l'éducation en langue anglaise au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ces deux déclarations-là, Thomas?
Je pense que la deuxième, Chelsea Craig, a ravalé ses propos oui. assez rapidement. Et ça a été enlevé puis remplacé avec une litanie d'articles de soutien à la Charte de la langue française. Alors, bon, c'est déjà ça de prix.
Mais c'était pas très convaincant.
Non, mais en fait, ce qui n'est pas très convaincant, c'est l'attitude du Parti libéral du Canada ouais. à l'égard de la langue française au Québec. Parce que moi, je me souviens, l'année dernière, ma dernière année, 2018, j'étais en train de quitter la politique et une des dernières choses que j'ai eu à faire, c'était de veiller à une commission parlementaire pour pouvoir au remplacement de Graham Fraser comme commissaire aux langues officielles.
Ah oui, OK.
Et voilà que notre Mélanie Joly, qui aujourd'hui dit qu'elle est choquée et abasourdie par les propos de sa collègue Lambropoulos, la même nous a ramené une personne dont la seule qualification était d'avoir été député et ministre libéral dans les gouvernements de Dalton McGuinty.
Ah oui, tu le rappelles souvent, ça c'est bon, oui.
Mais c'est vrai, c'est Madeleine Meyer qu'ils ont... Et c'était tellement évident qu'elle n'était pas qualifiée pour la fonction qu'ils étaient obligés de battre en retraite. Mais c'est ça qu'ils pensent. Puis il y a un détail qui échappe à beaucoup de monde. Justin Trudeau a déjà dit très publiquement à propos des écoles anglaises et françaises au Nouveau-Brunswick. Ah, pourquoi on a des écoles françaises et anglaises au Nouveau-Brunswick? Ça devrait être juste un système scolaire parce que sinon, ça divise. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et
ah,
lui,
oui.
il était obligé de faire un full... il est parti en retraite exactement à l'instar de Chelsea Craig dont on vient de parler. Alors, soit on y croit, soit on répète des lignes. Et si on y croit, puis on l'a vécu, puis on a compris, je comprends peut-être un petit peu mieux un aspect de Chelsea, parce que peut-être elle vient, elle n'est pas du tout de la région de Montréal. Et donc, en campagne d'où elle vient, il y a eu une nette dégringolade de l'offre de services d'école en français, pardon, en anglais.
OK. Mais,
ça n'explique pas le fait que quelqu'un qui occupe une fonction à ce niveau-là n'ait jamais été sensibilisé à la réalité qu'était la défense de la langue française au Canada. Parce que M. Trudeau et ses comparses vont toujours nous dire « Non, 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 on a deux langues officielles égales. » Moi, j'aurais peut-être pu dire ça, Antoine, jusqu'à ce que je mette les pieds à Ottawa comme adulte, parce que je suis né à Ottawa. Mais quand j'ai été élu en 2007 à la Chambre des communes, en bon québécois, les deux bras me sont tombés, les deux oreilles aussi. Je n'en revenais pas jusqu'à quel point c'était une fiction politique de dire qu'il y avait deux langues officielles au Canada.
Mais oui.
Et ça, c'est dans notre capitale nationale. Des petits exemples niaiseux. Je suis rentré à coller sur le Parlement dans un Starbucks pour commander un café, puis j'étais avec une proche collaboratrice, on parlait tous les deux, qu'est-ce que tu veux, hein? Je disais, je prendrais un double expresso, puis telle affaire. Puis là, des grands yeux, il n'y avait personne là-dedans qui connaissait un mot de français. Je dis pas qu'ils avaient l'obligation, parce que effectivement, malgré toutes les demandes qui ont été faites, il n'y a même pas une obligation d'afficher bilingue à Ottawa.
Okay.
Le maire d'Ottawa est toujours opposé, Jim Watson. Et Jim Watson, c'est un gars de la chute. C'est un Québécois. Et non, 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 ça divise. Ça divise quoi?
Ça divise
d'exiger le bilinguisme. Donc, je m'excuse de l'expression, mais je vais utiliser un bon mot français.
Oui.
Bullshit. Bullshit pour dire qu'il y a deux langues.
Moi, pour traduire bullshit, j'ai trouvé fadaise. J'aime beaucoup fadaise. En tout cas,
c'est bon, ça.
C'est bon, des fadaises. Hey, merci infiniment, cher Thomas.
Allez,
on se reprend
à très bientôt.
La semaine prochaine, vendredi, pour un autre dialogue avec des barbus. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Des bandes rugueuses sur l'accotement en bordure des voies cyclables, est-ce que ça permettrait de mieux protéger les gens qui sont en vélo, les cyclistes? On en parle avec le ministre des Transports, François Bonnardel. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, monsieur le ministre, vous avez vraiment eu une belle année de vélo. 4060 km au compteur, 43 000 mètres de dénivelé, 86 sorties de vélo, c'est formidable.
Ben, c'était une belle saison, mais au-delà de tout ça, on est toujours dans un contexte au ministère d'assurer et d'améliorer la sécurité des cyclistes un peu partout au Québec. Dans ces conditions, on voulait mettre en place certains projets pilotes cet automne. C'est un peu tard en fin de saison, là, mais surtout pour le début de la prochaine saison, puis d'avoir une implantation de bandes rugueuses sur différentes routes là, qui auront été choisies par le ministère des Transports. Donc,
on avait eu la primeur, on avait vraiment eu la primeur, je me souviens, à La Hausse sur la colline de cette nouvelle-là. Puis c'est, à ce moment-là, vous me parliez de trois routes principalement où il y aurait ce type de bande rugueuse là, qui serait installée.
Oui, c'est après avoir eu des discussions avec Pierre Lavoie, pardon.
Oui.
Voilà quelques mois déjà, on a décidé d'implanter ces bandes rugueuses. Cet automne, la saison est terminée sur le boulevard Pierre-Laporte qui vient d'être fait complètement sur 4,5 km. Et on va débuter aussi ces travaux sur la route 170 entre Saguenay et La Rouche l'année prochaine au printemps.
Okay.
Et sur la route 132 à Saint-Vallier, une portion de la route verte là, en Chaudière-Appalaches au printemps prochain aussi. Donc, c'est une bande rugueuse qui va être différente de celle que les gens connaissent sur l'autoroute, qui va être moins profonde, qui va être moins large. Puis ce projet pilote qui va définir si la bande pourrait être quelques centimètres à droite de la banderie ou plus près de la banderie. Donc, selon la largeur de l'accotement, on va définir quelle sera la bande la plus adéquate pour assurer la sécurité. Puis cette petite demi-seconde ou seconde que l'automobiliste pourrait avoir d'égarement puis d'aller vers la droite, ben, pourrait sauver la vie d'un cycliste.
Mais le cycliste, lui, qui a des petites roues, mettons, qui fait du cycliste de route, là, qui est en vélo de route, lui, s'il rentre dans la bande rugueuse, est-ce qu'il risque pas de déraper?
Ben, c'est pour ça que la bande, premièrement, va être moins profonde.
OK.
Elle va être moins large. Ça va prendre un accotement, je vous dirais aussi d'au moins 1,5 mètre à 2 mètres.
Ah,
être capable de laisser une place quand même adéquate aux cyclistes. On ne pourra pas faire ça sur des accotements qui sont vraiment pas larges de 0,5 mètres ou même d'un mètre. Ce serait quand même difficile parce que si on veut que le cycliste ait sa place pour être capable de circuler, puis que ce temps de réaction d'automobiliste qui pourrait aller vers la droite, puis que le cycliste peut s'entendre aussi, le véhicule s'en vient à l'arrière, ben c'est des secondes, demi-secondes qui sont importantes. Puis on définit au ministère que avec ces bandes rugueuses, il y a presque 25 à 30 de moins d'accidents ou de véhicules qui perdent le contrôle pour avoir un accident sur le côté de la route et perdre le contrôle. Donc, on va étudier ça dans la prochaine année, en 2021. On va avoir autant de bandes vidéo, de sondages avec les cyclistes, les automobilistes, le bruit que ça pourrait occasionner aussi dans certains secteurs. Parce que, bon, une bande rugueuse, s'il y a un camion ou un véhicule qui l'utilise, on sait que ça fait quand même un peu de décibels. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en place dans la prochaine année pour utiliser tout ça.
Donc, ça serait creux. Ça serait pas une saillie. Ça serait vraiment un creux, mais moins large que les fameuses bandes rugueuses qu'on connaît sur l'autoroute, là, si je comprends bien.
Ouais, moins large, moins profond. Parce qu'à quelque part, ceux qui ont déjà roulé, exemple, dans la réserve faunique de Laurentides, les bandes rugueuses qui sont là, c'est comme sur une autoroute conventionnelle. Donc, quand vous prenez la bande rugueuse, ça se sent, là. Faut tenir le guidon serré. Alors, on peut pas mettre ça en projet pilote parce que j'en conviens que ça pourrait être difficile. Bon, il faut être
Vous l'avez fait dans le grand défi, le parc.
Ouais, plusieurs fois. Donc, quand tu utilises la bande, là, oui, c'est ça. Ça fait mal au derrière, ça fait mal au bidon, ça fait mal à tout.
OK.
Alors voilà. C'est pour ça que les particularités sont différentes pour ces secteurs de route qu'on va utiliser.
OK. Donc, dans vos 4060 kilomètres au compteur, bon, il y a peut-être là-dedans des kilomètres de vélo virtuel. Mais sur la route, là, c'est le principal risque que vous avez perçu, cette possibilité que l'automobiliste ou la personne en camion ou en pick-up oublie qu'il y a un accotement, puis...
C'est certain que les bandes rugueuses, on ne peut pas les installer partout. Donc,
ben non,
les cas de rage au volant ou certains automobilistes ou camionneurs... veulent pas voir les cyclistes, on n'empêchera pas ça. Malheureusement, la prévention, le partage de la route, les publicités que la SAAC et les villes font pour dire aux automobilistes, aux camionneurs, ben c'est un partage de la route, c'est une route verte qui est utilisée dans certains secteurs, oui, les villages partout au Québec. Il y a une amélioration, je l'ai mentionné souvent,
oui.
Sauf qu'il y a encore malheureusement certains automobilistes ou camionneurs là, qui veulent pas voir de cyclistes. Bon, on a à respecter le code de la sécurité routière. On a des efforts à faire. Maintenant, ce partage est important. Puis l'utilisation du vélo en temps de pandémie, encore cette année, est accélérée dans le sens où les gens veulent sortir, veulent prendre l'air. Puis c'est un moyen de se garder en forme. Donc, il y aura toujours des efforts. Et là-dessus, le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que c'est une des avancées intéressantes qu'on va mettre en place dans la prochaine année pour sauver. Puis si on sauve une vie l'année prochaine grâce à ça, bien, ça sera sur gagne.
Ça sera sur combien de kilomètres en tout?
Bien, la première portion qu'on fait sur la route, sur le boulevard Pierre-Laporte à Granby, c'est sur 4,5 kilomètres. Et okay. Sur ce 4,5 kilomètres, on va avoir des bandes qui vont être soit collées sur la banderie, soit un peu décalées de la banderie, avec différentes... Puis là, quand je dis profondeur, là, ça coûte millimètres. Hein?
Mm-hmm.
Ça coûte millimètres. Donc, on va jouer avec cette portion de 4,5 kilomètres cet automne. On a une bande de 1,5 à 2 mètres. Donc, on a une bande pour que les cyclistes là, soient en sécurité. Puis, on va évaluer par la suite là, quelles seront les bandes les plus adéquates là, selon la largeur de l'accotement dans le futur. Donc, on fait ça cet automne à Granby. Puis, l'an prochain, on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, en Chaudière-Appalaches.
OK. Les pick-up qui nous frôlent, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Quand on est ministre des Transports?
On te fâche pas trop, mais non, mais au-delà de tout ça, il y aura malheureusement toujours des gens qui considèrent que les vélos n'ont pas leur place sur la route. Je leur dis au contraire, ce partage doit se faire, doit bien se faire. Maintenant, il y a des règles à respecter hein, pour les cyclistes quand on est en groupe de 4, 5 ou 6. Plus souvent qu'autrement, s'il n'y a pas d'accotement, faut rouler en file indienne. Pour pas rouler à deux, puis encore moins à trois de large pour prendre toute la route.
Mm-hmm.
Alors, j'ai pas de leçon à donner là aux cyclistes, mais encore une fois, il faut quand même faciliter ce partage de la route. Puis de l'autre côté, ben je dis aux camionneurs, puis je dis aux automobilistes, ben ce partage il est important. Puis à quelque part, il faut s'habituer parce qu'il y aura encore plus de cyclistes dans les prochaines années. Puis, je pense que c'est un partage qui est juste sain. Sauf que c'est pas facile pour certains là, d'accepter ce partage.
En terminant, le tramway et le troisième lien, comment ça va? Est-ce qu'on a réussi à relier les deux?
Ça va bien, M. Robitaille.
Oui.
Vous le savez, on a annoncé.
Vous avez des rencontres là, avec le maire sur le tramway.
Exactement.
Combien de rencontres vous avez eues?
Je n'irai pas plus loin, monsieur.
Ah non? OK, correct.
Ah non.
Je sais qu'il y en a une qui a été rendue publique.
Oh, bien essayé, mais non, on s'est rencontrés, puis on a mis carte sur table, puis on a à cœur ce projet. La ville a à cœur ce projet, puis on va trouver le meilleur projet pour les gens de Québec et les gens de la Rive-Sud.
Puis le BAP, il va sûrement se pencher sur le projet du troisième lien. Est-ce qu'on sait à peu près quand? Quand est-ce qu'un BAP se fait? Ça prend des annonces.
Premièrement,
il faut que le projet soit pas mal avancé, j'imagine.
C'est prématuré de vous donner une date. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est de dévoiler le projet.
C'est ça.
Donc, on est à cette étape. Quand on aura dévoilé le projet, bien, tout le processus environnemental ou la suite ira de l'avant.
Vous engagez-vous à respecter les conclusions du BAP comme on le fait pour le tramway?
Ben, premièrement, le BAP a refusé le projet de REM à Montréal. Le gouvernement est allé de l'avant.
Ouais.
Le BAP a refusé le projet de train de l'Est à Montréal. Le gouvernement est allé de l'avant. On reçoit un rapport du BAP aussi qui est sévère dans ses conclusions. Au-delà de tout ça, on peut pas tout régler là, dans le rapport du BAP. On peut pas tout prendre, donc on prend certains éléments qui vont nous amener à peaufiner et à améliorer le projet. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, okay. Le jour où le BAP sortira son analyse, son rapport sur le tunnel, ben, on pourra l'évaluer en temps de mieux.
Je reviens au vélo. Est-ce qu'il est rangé, le vôtre?
Non, pas du tout.
Ah non?
tant qu'il fait pas en bas de zéro, là, moi, j'ai toujours dit à vélo, c'est les vêtements qui changent tout. Là.
Oui.
C'est bien habillé, que ce soit en vélo de montagne ou que ce soit en cyclocross. Vélo de route, c'est un petit peu plus compliqué à ce temps-ci de l'année, là, mais le cyclocross et le vélo de montagne, c'est encore bien adéquat. Là.
Quand est-ce que vous sortez vos skis dans le coin de Granby?
J'espère qu'on va être capable de sortir bientôt.
Oui, moi aussi.
Mais là, on est encore 12-13 degrés à Granby aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais on va espérer avoir une belle saison malgré la pandémie, mais je pense qu'il y a encore une recrudescence. On va le voir. Là. Déjà, j'ai des boutiques, des amis là, qui voient des ventes de ski de fond là, exploser déjà même 6-7 semaines avant Noël. Donc, je pense que les Québécois trouvent des moyens là, de prendre l'air, de se tenir en forme, puis de considérer que leur santé, c'est important. Puis
absolument.
Pour moi, ça l'est. Donc, je donne un petit exemple bien à moi, là, mais au-delà de tout ça, pour moi, la sécurité des cyclistes, puis cette annonce qu'on fait aujourd'hui est importante pour leur
absolument.
Dire qu'on c'est de petites avancées, mais c'est de petites avancées qui pourraient faire une grosse différence. Puis comme j'ai souvent dit, si on sauve juste une vie l'an prochain, grâce à ces bandes, ce sera ça de gagné.
Petit train va loin, comme on dit, petite roue va loin aussi, espérons aussi en cyclisme.
Salut.
Merci François Bonnardel, au revoir.
Bye-bye.
François Bonnardel est évidemment ministre des Transports. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et soyez là lundi.
Cube Radio.